Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30. Le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bien le bonjour, bon vivant de l'été. Bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Voilà le programme jusqu'à midi et demi. Alors tous les samedis de l'été, je vous donne rendez-vous pour partager les meilleurs moments avec nos invités et puis nos experts de l'alimentation. C'est la saison des tomates, hein, vous l'avez remarqué, sur les étals, elles sont là, les vraies cultivées en pleine terre. Daniel Vuillon, maraîcher bio dans le Var, nous rappellera qu'une bonne tomate, écoutez bien, elle doit être molle et charnue, et pas dure comme du bois. À défaut de partir en vacances aux États-Unis, nous allons goûter les plaisirs et puis les bienfaits de la cuisine californienne. Bien loin de la junk food, elle est fraîche et équilibrée. Jean-Luc Petit-Renaud nous chantera le temps des cerises, parce que c'est vrai, c'est encore la saison des clafoutis. Et puis nous finirons en beauté avec les coups de fourchette de Zaz. Allez, comme chaque samedi, on commence par un petit tour au marché. Direction celui du cours Lafayette à Toulon. Vous nous parliez de vos retrouvailles avec les produits locaux de l'été.
J'ai acheté des artichauts, des concombres, des tomates, des radis.
Des courgettes, des aubergines, des fraises.
Des légumes et des fruits de saison et locaux.
Allez, je profite d'un fraise à ce moment.
Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Des carottes, des radis, des concombres, très bons à cette saison. Des tomates, des pêches, des fraises. Il n'y a que ça qui descend en ce moment.
J'ai acheté des haricots verts. Et maintenant, je cherche des oignons blancs. C'est pour accommoder les haricots verts.
Des aubergines et des courgettes. Pour manger assez équilibré. Des poêles et de légumes, principalement.
Eh ben, j'ai acheté la pastèque, le pain au levain, des tomates, des salades pour faire des nems, à ma façon, d'ailleurs.
Voilà, Carantis, merci beaucoup. Hein.
Bonne journée. Oui. N'oubliez pas la monnaie. Bonne journée, messieurs, dames. Très, très important. C'est fou comme la nature est bien faite quand même. Hein.
Exactement. Vous voyez, on est en été, on a besoin de s'hydrater,
bah
on
oui.
a besoin de se rafraîchir. Et de qu'est-ce
l'eau.
Qu'on a? Les melons, les concombres, les courgettes, tous des légumes qui sont très riches en eau et qui vont nous apporter tous ces nutriments dont on a besoin.
Donc allons-y à fond sur le concombre, la pastèque, le melon, on mélange tout ça, on fait de grandes salades. Et puis il y a aussi... Attention, je vais vous poser la devinette, on va voir si vous trouvez, mais un produit de saison incontournable. Je suis le fruit préféré des Français, on me déguste comme un légume. Je suis.
La tomate.
La tomate, absolument, elle sera avec nous dans un instant, mais attention, on parle de la vraie. Hein.
Celle de pleine terre.
La pleine terre, cultivée sous le soleil, et on ira la cueillir du côté d'Olioul avec Daniel Vuillon. C'est vraiment l'Astérix de la tomate. Il a parcouru le monde à la recherche des variétés anciennes de tomates et on va les déguster tout à l'heure au micro de Marion Sauveur. Voilà, vous savez tout. Et j'aimerais qu'on écoute, tiens, un petit extrait de cette chanson qui nous ramène à Toulon.
100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous?
Les marchés de Provence de Bécaud. De
pêche, l'accent de Provence.
Ben oui, le Toulonnais Gilbert Bécaud. On y était. Faites le marché, hein, si vous êtes sur la route des vacances. Faites les marchés paysans, les marchés producteurs. Allez découvrir votre région. En faisant le marché, c'est là que ça se passe, comme nous le disait encore Jean-Pierre Pernaut la semaine dernière. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Juteuse, légèrement sucrée, molle au toucher, on parle de la bonne tomate ce samedi matin à la table des bons vivants. Sa saison vient de commencer il y a quelques semaines et c'est vrai que chaque été, eh ben, on est content de la retrouver et on a mis du temps à l'apprécier en même temps quand elle a débarqué sur le continent, Yves Candebordes.
Oui, parce qu'au départ, on a trouvé les premières tomates, c'est au Mexique. Et c'est les Espagnols qui les ont ramenés.
Les conquistadors.
Donc, les conquistadors qui sont arrivés, qui s'est passé par l'Espagne et par l'Italie. Et nous, les petits Français, on a toujours du mal avec les nouveaux produits. On les a regardés bizarrement parce qu'on pensait que c'était peut-être du poison,
mais oui,
voire que de l'ornement.
Vous savez pourquoi? Parce que les feuilles de la tomate sont toxiques. Et comme les feuilles étaient toxiques, on pensait que le fruit l'était aussi, en fait.
Tout à fait. Et c'est parti de Provence, une fois de plus.
Le soleil.
Le soleil. Et c'est eux qui ont commencé à les cultiver et qui les ont fait rentrer, je dirais, un peu dans la gastronomie française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont indispensables à la gastronomie française.
Alors on parle des vraies, cultivées en pleine terre, sous le soleil. On vous en conjure hein, régulièrement à la table des bons vivants. Arrêtez d'acheter des tomates toute l'année, c'est maintenant.
Ben, et même maintenant, on trouve encore de la tomate en sol. Donc
ça,
on va
fou.
Vraiment se renseigner auprès de son vendeur. D'où viennent ces tomates? On doit avoir la garantie qu'elles sont de plein champ.
Olivier Pouls, 90% de la production de tomates en France est hors sol. Alors, on va encourager tous nos maraîchers qui font de la pleine terre. Et justement, on vous emmène rencontrer Daniel Vuillon à Olioul dans le Var. C'est vraiment, je vous le disais, Astérix au pays de la tomate. Il a parcouru plusieurs pays à la recherche de semences anciennes. Il se bat pour les variétés paysannes, des tomates molles, de toutes les couleurs, biscornues, un peu boursouflées. Et il nous apprend à reconnaître justement le meilleur des tomates au micro. De Marion Sauveur, direction Olioul dans le Var, à écouter, il y a même les cigales.
On est dans un champ de tomates, il y a une quarantaine de variétés maintenant qui sur notre terroir, sous notre climat, donnent le meilleur produit possible au niveau de l'assiette.
Et là justement devant nous on a une cœur de bœuf.
C'est la vraie tomate de saison, c'est une variété ancienne, elles ont la forme d'un cœur. Avec les variétés modernes, on a réussi l'exploit de faire de la contrefaçon. On est complètement trompé par le côté visuel, mais après on est fortement déçu sur le côté gustatif. Il faut demander aux marchands si ces tomates sont cultivées en pleine terre ou en hors sol. Eh bien, le nom de la variété, est-ce que c'est une variété vraiment ancienne ou est-ce que c'est une variété qui vient d'être créée mais qui ressemble à une variété ancienne ? Et les vraies variétés anciennes sont des variétés à peau fine, donc fragiles. Elles sont plutôt moelleuses et elles ne sont pas fermes.
Il ne faut surtout pas les mettre au frigo. Hein.
Voilà. Dès que vous allez les sortir, il y a un choc thermique. Le mieux, c'est de les conserver à l'endroit le plus frais de la maison. Et comme ça, elles vont continuer à mûrir tranquillement. Et vous pouvez les garder 8 jours.
Il n'y a plus qu'à se faire une bonne salade de tomates.
Des tranches avec une petite huile d'olive et de la fleur de sel. Une petite feuille de basilic. Et normalement, c'est la tomate qui fait tout.
Ben évidemment, merci Daniel Vuillon, un homme formidable. Au passage, je vous le dis, Daniel Vuillon, c'est le fondateur de la première AMAP de France, la première association pour le maintien de l'agriculture paysanne avec sa femme Denise. Elle s'appelle Les Olivades et aujourd'hui, ils vendent encore directement à la ferme leur variété de tomates. Le drame de la tomate, c'est qu'on a voulu privilégier le calibre et le transport, Yves Candebord.
Oui, une fois de plus, on a privilégié, je dirais, l'emballage. Voilà, on a voulu qu'elle soit bien calibrée, bien brillante, tout identique. Et justement, quand on ne laisse pas faire la nature, il faut la laisser faire ce qu'elle veut. Il faut qu'on l'accompagne, il ne faut pas la contrarier. C'est pour ça que les tomates, aujourd'hui, quand vous les choisissez, surtout quand vous voyez des petites tomates comme des boules de pétanque,
mais oui,
toutes identiques
les longues
et bien brillantes,
mais oui.
N'y touchez pas. N'y touchez pas. Ce n'est pas la peine d'en manger parce que ce n'est pas de la tomate.
Elle doit avoir un peu une sale tête, en fait.
Oui.
Parce qu'évidemment, elle n'a pas pu mûrir de tous les côtés de la même manière. Elle est un peu boursouflée, elle est biscornue.
Exactement,
elle
c'est ce qu'on disait. Et Marion Sauveur nous en a rapporté de chez Daniel Vuillon. Elles sont magnifiques. Regardez, elles sont toutes molles, justement. Là, on a la vraie cœur de bœuf, pas la côtelée, comme on le disait, qui est une fausse cœur de bœuf, qui est pleine de flotte à l'intérieur.
Oui,
quand vous coupez une cœur de bœuf, c'est de la chair.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à force de les hybrider, ces tomates, en quelques années, en quelques dizaines d'années, elles ont perdu 50% de leurs nutriments,
oui,
et de leur qualité, notamment en termes de vitamines.
Votre incontournable autour de la tomate pour l'été?
Alors moi, l'été, je l'aime cuite, Laurent. C'est vrai que la salade de tomate, on en mange beaucoup.
Bien
mais
sûr.
Moi, je l'aime cuite. J'aime prendre des tomates. En plus, c'est économique. Parce que quand vous allez faire marché, si vous arrivez un peu tard sur le marché, vous récupérez, je dirais, les fins de cajot des tomates, voilà, qui étaient un peu trop mûres, peut-être, qui étaient même un peu éclatées, que les gens n'ont pas voulu acheter. Si vous vous débrouillez bien, vous allez avoir une ristourne. Et après, vous les prenez, vous les mettez dans un plat. Un peu d'huile d'olive, du thym, du laurier, et vous les mettez au four à confire tout doucement,
tout doucement.
Il faut les laisser pratiquement une heure, Laurent, à 120 degrés. Vous les sortez, et là, il y a deux façons de les manger. On peut les manger en chaude, comme ça, ou on les met au réfrigérateur. Et après, ça vous fait tout le temps une genre de sauce tomate naturelle que vous pouvez écraser sur une pâte,
en accompagnement
d'un poisson, accompagnement d'une viande,
oui,
et voire avec une pointe de gingembre, une pointe d'huile d'olive, en entrée ou en amuse-bouche.
Olivier Pouls, votre incontournable de l'été autour de la tomate.
Alors moi, c'est très simple. Je les amince très finement. Je fais un carpaccio de tomates et je l'agrémente d'une huile d'olive infusée à la vanille. Et la vanille et la tomate, ça marche extrêmement bien.
Ah oui,
bien
c'est vrai,
ensemble.
C'est bien ça. Moi, mon incontournable, je vous l'ai fait ici déjà, mais j'y reviens tout le temps. C'est la salade de tomates coupée en quartier. Toutes les variétés est très, très vinaigrée. Beaucoup plus de vinaigre de vin que d'huile d'olive. On laisse dégorger quelques feuilles de basilic et d'oignon nouveau. Et on boit le jus à la paille. Exactement. Allez, ne bougez pas. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors, loin des plages de surfeurs et des collines d'Hollywood, la Californie est l'Eldorado d'une cuisine respectueuse de l'environnement, des produits sains et bruts. La chef Kathleen Clarity vient de sortir La Nouvelle Cuisine Californienne, un livre qui nous emmène à la rencontre des fermiers bio et des chefs engagés de la Californie du Nord à travers 60 recettes saines et faciles. On est ravis qu'elle soit là. Bonjour Kathleen Clarity.
Bonjour.
Bonjour Kathleen.
Bonjour.
Vous êtes née à Chicago, vous vivez en France depuis 1986, vous êtes maman de 3 enfants, vous donnez des cours de cuisine et vous écrivez des livres de cuisine, donc bien manger pour vous c'est important.
Très très important.
Vous venez du Minnesota mais vous avez eu vite le béguin comme on dit en France, hein, le coup de foudre pour la cuisine californienne. C'est quoi en quelques mots la cuisine californienne si vous deviez la définir ?
Alors en fait, je ne le définirais pas forcément comme une cuisine. C'est-à-dire, on ne cuisine pas beaucoup.
C'est vrai.
Vraiment, on va dire, c'est un assemblage de très bons produits.
C'est ça, c'est le choix de la matière première.
Exactement. C'est vraiment, il y a... En fait, en Californie, il bénéficie d'un climat absolument exceptionnel, avec plus de 1700 km de côte à côte, enfin tout le long de la côte. Donc il y a plusieurs climats dans un même état. Ce qui fait que les produits sont en saison quasiment tout le temps, en fait, selon l'endroit où on se trouve dans l'état, et ils sont absolument fabuleux.
Donc, c'est un état très grand en plus. Hein.
C'est très très grand, vraiment c'est très grand.
Et puis il y a la mer juste à côté.
Ah bah oui, voilà, on est vraiment sur tout le long de la Pacifique, il y a la montagne, il y a le désert, enfin voilà, donc toutes sortes de cultures possibles et imaginables, ce qui fait qu'on peut faire des plats très simples et juste délicieux.
Alors vegan, sans gluten, cétogène, de nombreux régimes sont nés en Californie. Alors au-delà des modes et des tendances de ces régimes, il y a une volonté de manger sainement là-bas grâce à une agriculture, on va dire, locale et durable en fait. C'est ce que vous avez aussi montré dans ce livre.
Oui, tout à fait. En fait, je me suis vraiment focalisée là-dessus. Évidemment, on trouve aussi un peu de culture intensive, un peu de monoculture en Californie. Hein. Mais là, pour l'instant, j'ai...
Les amandes, par exemple.
Oui,
voilà,
oui. Ils sont un peu décréés en ce moment.
Culture intensive de l'amande de Californie, oui.
Ces idées sont absolument délicieuses. Hein. C'est dommage, mais...
Quels sont les produits, justement, qui vous ont fait de l'œil, qui vous ont séduit?
Alors, vous allez rire parce que c'est un produit qui, pour nous, nous semble tout à fait banal, mais c'est de la salade. Je pense que je n'ai jamais goûté autant de feuilles et de variétés de salades différentes. C'est dingue. Il y a une recette, en fait, dans le livre où c'est juste un énorme saladier. Où qu'on aille, en Californie, chez mes amis, dans les restaurants, il y a toujours une énorme salade verte, mais avec un mélange de tout, des herbes, des pétales de fleurs, des différentes variétés amères, un peu plus doux, toujours très croquant. C'est marrant, c'était un produit que je trouvais absolument excellent.
En France, on a aussi des agriculteurs quand même engagés pour une alimentation saine. Hein. C'est quoi là ? C'est le bio qui fait la différence en Californie ?
Il y a beaucoup de bio, ouais. Et il y a vraiment une mouvance vers, de plus en plus vers le bio. Moins en moins de subventions, en fait, pour le côté pesticides, culture intense. Donc ça, c'est tant mieux. Donc on va vers le bio. C'est très, très, très locavore, en fait. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui a toujours existé là-bas. Il y a des chefs très engagés depuis les années 70.
Alice Waters, que vous avez rencontré dans le livre aussi. Hein.
Par exemple, exactement. C'est la papesse de tout ça. C'est une femme extraordinaire. Et c'est vraiment, on va dire, la pionnière de tout ce qui est locavore.
Oui, c'est un peu une tendance qu'on découvre depuis quelques années en France, mais c'est inscrit depuis très longtemps là-bas en Californie. Olivier Pouls.
C'est vrai qu'on a une image de la cuisine américaine, on va dire, un peu catastrophique quand même. Et la Californie, c'est vraiment une poche totalement à part. Ça n'a rien à voir.
C'est le village d'Astérix.
Oui, exactement, avec le reste. Mais est-ce que les autres États américains s'inspirent un peu de ce qui se fait en Californie?
Oui, ils s'en inspirent beaucoup. Alors, ils s'en inspirent et parfois ils se moquent un tout petit peu aussi. Parce qu'on dit de la Californie, c'est que l'état des fruits and nuts. Donc nuts, c'est des fous, en fait. Et des fruits, c'est, voilà, on va dire, des gens très, très heureux, très gays, voilà. Mais effectivement, ils sont un peu jaloux, parce qu'il y a tous ces produits excellents qui sont disponibles facilement toute l'année.
Alors justement, les produits, les recettes, ne bougez pas, on continue à passer la cuisine californienne à la casserole avec Kathleen Clarity, qui vient de sortir La Nouvelle Cuisine Californienne chez Hachette. A tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Les burritos, les grain bowls, les avocado toast, la cuisine californienne a le vent en poupe en France. La chef Kathleen Clarity est avec nous, elle nous donne ses meilleures recettes. Kathleen, dans votre livre, il y a une soixantaine de recettes. Alors c'est vrai que cette cuisine californienne, elle est saine, elle est nature, elle a une dominante végétale. C'est très à la mode aujourd'hui de manger un bowl de légumes ou des pancakes vegan. Expliquez tiens, à nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un bowl de légumes. On en voit partout, même maintenant dans les restaurants.
Oui, ils prennent plusieurs noms. On a des bouts de bol, des pokéballs. Ce qui est intéressant avec ces bowls, c'est que c'est très sain. C'est juste un repas complet dans un bowl, avec en général une base de céréales. Ça peut être un riz complet, ça peut être un quinoa, ça peut être de l'orge, ça peut être
Ça peut être du sarrasin, j'adore le sarrasin.
Oui, c'est bon ça.
Voilà, c'est super bon, le sarrasin grillé, c'est délicieux. Buckwheat en anglais. Et on va rajouter des petits légumes, des pickles de légumes. On va ajouter un petit peu de protéines. En général, ça va être une protéine plutôt maigre, du poulet, un peu de poisson, un peu de thon, un peu de saumon. Des petites sauces et parfois même des fruits. Donc en fait, on a vraiment, on va dire, toutes les,
c'est
tous
ça,
les
y a, aliments. Il y a un petit côté sucré-salé parfois à l'intérieur.
Parfois, oui, tout
c'est
à fait.
C'est un peu un cousin de notre salade complète en France qu'on fait pour partir en pique-nique, par exemple. Mais là-bas, on mange ça régulièrement le midi et le soir. C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est une cuisine d'assemblage, en fait, hein, la cuisine californienne. C'est pas une cuisine sophistiquée. On reconnaît ce qu'on mange. C'est pour ça que ça rassure peut-être aussi à l'heure de la malbouffe et des produits ultra transformés, en fait.
Oui, je pense. C'est très bien dit parce qu'effectivement, on reconnaît tout dans l'assiette. On va pas du tout partir dans les émulsions, dans les sauces. Bon, j'ai rien contre, j'adore ça. J'ai appris la cuisine française, j'en suis très admirative.
Oui, vous avez fait l'école Ferrandi.
Oui, exactement. Je crois, je ne suis pas la seule.
Non, mais bravo, très belle école. Belle référence.
Exactement. Mais je trouve ça très agréable d'avoir juste, en fait, un petit condiment ou une petite sauce très légère à base d'agrumes. Alors là, c'est l'état des agrumes par excellence. Hein. On a une variété d'agrumes, mais fabuleux. Donc effectivement, ça va être fait. Là, la salade qu'on est en train de déguster, c'est avec du jus de citron vert et un peu de citron jaune.
Alors racontez-nous justement, parce qu'on rentre dans la saison du concombre, et elle est marrante, c'est une salade de votre livre avec le concombre Noah, qui est une variété de concombre qu'on trouve facilement.
Comment
vous faites ça alors?
En fait, c'est la salade de concombre écrasé. Alors pourquoi écrasé? Parce qu'en fait, on va juste laver rapidement le concombre, je le mets dans des sacs congélation ou alors juste dans un feuille de papier sulfurisé, et je le tapote en fait avec un rouleau à pâtisserie. Et ça permet en fait de casser la peau, d'enlever les graines, en fait, plutôt que de le dégorger avec du sel. Donc, ça va enlever l'excédent d'eau et les graines. On les gratte, je les découpe. En fait, c'est même pas, vous avez vu, hein, c'est pas la petite brunoise parfaite. Au contraire, c'est un peu bon,
oui,
comme ça.
Oui, c'est grossier, comme on dit, mais c'est ce qu'on aime. On reconnaît en plus la matière, en fait, de l'aliment. Et puis, vous avez épluché une lanière sur deux. Donc, on garde un petit peu de peau aussi pour l'amertume.
C'est exactement ça, voilà. Pour l'amertume, pour un peu de vitamine aussi.
Des noix de cajou.
Les noix de cajou. En fait, voilà, cette salade, pour moi, elle représente en elle toute seule toute la Californie. Parce qu'on a le côté fraîcheur de concombre, on a des radis donc pour le croquant, et aussi toute cette influence un peu asiatique.
On a un peu de sésame.
Exactement, bravo.
Et du kiwi.
Bravo.
C'est bien.
C'est bon, on peut encore revenir la semaine prochaine, on reconnaît ce qu'on mange.
Non, Laurent, ce qui est plaisant, c'est ce qu'on a peut-être oublié un peu dans la gastronomie française, c'est les crudités.
C'est ça,
c'est
vrai.
Mettre en valeur les légumes le plus simplement possible, les accompagner avec de la fraîcheur, alors là, l'acidité, une rondeur avec des kiwis, remettre après, voilà, une petite noix de cajou, il y a aussi un peu de cive ou d'oignon de nouveau. Voilà, c'est un mélange de crudité qui est frais et c'est ce qu'on a envie de manger.
Alors là, on choisit un concombre bio parce que c'est vrai qu'au passage, hein, le concombre capte beaucoup de pesticides et de cochonneries. Donc quand vous pouvez, prenez des concombres bio vraiment. Et alors, à côté de vous, alors là, il est magnifique, un saumon. Alors un saumon labellisé, c'est pas le saumon de Norvège dont on parlait tout à l'heure.
Ils sont morts, de toute
façon.
Qui
a eu des problèmes. Ah, oui, ils sont morts, ceux-là.
Et tant mieux, tant mieux.
Et celui-là, il est beau. Qu'est-ce que c'est que ce saumon que vous avez apporté, Kathleen Clarity? Racontez-nous.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en Californie qui est juste génial, si je peux me permettre. C'est ce qu'on appelle le cedar plank salmon. C'est-à-dire, en fait, c'est un grand... Là-bas, on va le faire avec du saumon d'Alaska, qui est que sauvage, qui est magnifique, qui est très rouge, hein, naturellement. Donc, c'est un saumon, mais fabuleux. Et en fait, on le fait cuire sur le barbecue, mais sur une planche de cèdre. Mmh. En fait, juste attention, la planche de cèdre, il faut bien la tremper dans l'eau longtemps à l'avance.
Parce que sinon, elle part dans le barbecue.
C'est ça.
Elle se consomme rapidement, c'est quand même du bois, quoi. Voilà.
Et elle va donner un petit côté fumé, ça s'achète en magasin spécialisé.
Tout à fait. On les trouve en France aussi. Hein. Et effectivement, donc, juste pour vous dire, je l'ai fait quand même tout à l'heure pour vous.
C'est
mes voisins étaient très contents.
Oui, c'est ça, ça embaume.
Ça embaume.
Ça embaume le cèdre et le saumon.
Effectivement, mais en fait, le goût, en fait, de petit côté un peu fumé du boisé, va se transférer sur le saumon et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Il y a une petite marinade très légère. Leur marinade, c'est citron. Zeste citron, jus de citron, moutarde et miel.
C'est une recette de votre livre et on la retrouvera sur le site europe1.fr. Alors on est en train de faire le service pendant qu'on vous parle ici. Il est beau, la chair se détache et il n'est pas trop cuit ce saumon, Olivier Pouls.
Ah non, il est parfaitement moelleux. Et puis puisqu'on parle de gastronomie californienne, on peut peut-être toucher un petit mot des vins quand même.
Bien sûr.
Et on peut accompagner ça. Alors c'est vrai qu'on ne les trouve pas très facilement en France, mais il y a des vins magnifiques en Californie. C'est une terre de vignobles extraordinaire. Mmh. Et un joli blanc de Californie avec ce saumon, ça me fait voyager immédiatement.
Il y a Coppola qui en fait un dans la Napa Valley, mmh, là-bas, qui fait un blanc absolument magnifique. Francis Ford Coppola.
Absolument, absolument. Et il s'est vinifié d'ailleurs par un conseiller français.
Alors, on mange sain, vous l'entendez, sans produits chimiques, ce matin à la table des bons vivants. Ne bougez pas, on revient avec un ingrédient très présent dans la cuisine californienne, un ingrédient qui fait débat, c'est l'avocat. Vous allez voir qu'on va en parler de l'avocat et on va le cuisiner, mais après l'avoir bien choisi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Ce samedi, on se met à l'heure de la cuisine californienne, nature, saine et complète. Elle compte de plus en plus d'adeptes. On en parle avec Kathleen Clarity, qui vient de sortir la nouvelle cuisine californienne chez Hachette. Un livre avec 60 recettes saines, faciles et rapides à faire pour le week-end. C'est vraiment le compagnon idéal. On déguste votre saumon que vous avez cuisiné sur une planche de cèdre comme ça au barbecue, avec cette petite rondeur, comme on disait, du miel. C'est vrai que c'est peut-être la particularité de la cuisine californienne, c'est cette petite touche sucrée qu'on retrouve un petit peu partout, Yves Candebord.
Oui, complètement. Non, alors, pour y avoir passé quelques semaines en Californie, j'ai été émerveillé par la qualité des produits, par la façon de les assembler. Mais il y a toujours quand même une petite touche de rondeur qui, pour nous, gastronomes français, des fois, peut un peu nous plomber sur une répétition de repas.
Eh bien, reprenez justement de cette salade de concombre et les pas trop sucrées.
Il y a un petit peu de kiwi aussi.
Oui, il y a un petit peu de kiwi, mais voilà, c'est du végétal.
Il y a toujours cette forme de douceur. Voilà.
Il y a un produit qui n'a pas la même valeur environnementale selon qu'on le mange en Californie ou en France. C'est l'avocat. Ça fait débat parce que l'avocat du Mexique est vraiment un gros problème pour l'écologie. Les cartels mexicains, même maintenant, s'y intéressent. Ça devient un business comme le marché de la drogue, c'est vous dire. Mais en Californie, vous avez un avocat qui n'a rien à voir, mais on n'arrive pas à le trouver chez nous. Racontez-nous.
C'est vrai que c'est un avocat absolument fabuleux. J'ai rencontré un couple de producteurs, dans le centre, ce qu'on appelle le Central Valley, vraiment dans le centre de la Californie, qui font un avocat bio, mais à tomber, mais alors à tomber. Mais on ne pourra jamais le goûter en France.
Ils ne l'exportent pas.
Ils le gardent pour eux.
Ils le gardent pour eux. Non, mais c'est vrai qu'il y a une très grande mode, on le voit sur Instagram, de l'avocado toast, qui est cet avocat écrasé qu'on tartine sur du pain grillé ou sur un pain de mie de céréales complète, par exemple. C'est une folie totale, ça.
C'est une folie totale, mais ça vient d'une chose très précise. C'est-à-dire, ça vient un peu de ces différents types de modes de régime où on mange un peu moins de graisse animale. Donc, on ne va pas tartiner du beurre, on va chercher du bon gras, donc des oméga-3 présents dans l'avocat. Donc, c'est bien de ça, en fait. Et effectivement, boum, espèce de mode pas possible. Il y a même, je rigole avec ça, mais il y a même un emoji, vous savez, sur nos iPhones, là.
C'est vrai, avec l'avocat. Oui, absolument, oui.
Faut dire que voilà.
Yves Candebord, qui est très présent sur Instagram, mais beaucoup d'avocats. Hein.
Non, mais l'avocat, c'est vrai que c'est un produit qu'on aime. Voilà, parce que là, t'as raison, Christine, il y a ce côté gras, quoi. Ce côté gras, ce côté végétal,
c'est
goût,
rassurant,
cette onctuosité, c'est bon. Mais c'est vrai que ça nous pose un vrai problème aujourd'hui en France, parce que quand on voit les avocats qui nous arrivent, même quand ça arrive de Californie, est-ce que ça a un sens? Comme tu dis, les magnifiques avocats que vous avez, gardez-vous-les.
Oui,
ils sont pour vous. Quand on va chez vous, on en profite. Est-ce que ça a un sens de les amener chez nous? Moi, je ne crois pas.
Mais pour le coup, on peut trouver des avocats cultivés correctement en Espagne, par exemple, et même en Corse, on fait de l'avocat. Alors, c'est une petite production, mais on en fait.
Voilà, il y a une petite production en Corse qui est très intéressante. Après, j'ai envie de vous dire, l'Espagne me fait peur. Voilà, ils sont capables de tout produire.
Oui, mais en Andalousie, moi j'en ai vu qui étaient cultivés comme il faut, sans traitement et sans cochonnerie. On en trouve quand même.
Hein. Oui, mais après, il faut savoir, Laurent, quand même, que pour cultiver de l'avocat, la quantité d'eau.
Ah, bah c'est ça.
Est
c'est comme le maïs. Écologiquement, c'est compliqué.
Écologiquement, c'est très compliqué.
Alors, comme il faut toujours terminer par une note sucrée, Kathleen Clarity, tiens, une idée rapide de dessert californien typique que vous pourriez nous proposer, qu'on retrouve dans votre livre.
Alors là, encore une fois, on va prendre le produit brut tellement délicieuse. Et comme on est en train de parler du barbecue, je prends des fruits juste ultra frais et je les fais juste griller légèrement sur le barbecue. À côté, je vais faire une petite sauce, pardon Yves, mais peut-être un peu de sirop d'érable ou éventuellement un peu de miel.
Non, c'est un dessert, tu vois.
Mais c'est bien,
c'est
ça.
C'est un dessert. Et juste, en fait, on coupe une magnifique pêche en deux. On le fait aller-retour sur le barbecue. Ça va ressortir sous les sucres, tous les sucres naturels.
En attendant la saison de la pêche, on peut le faire avec des fraises, de la rhubarbe.
Tout à fait.
Alors, la cerise, c'est déjà très sucré. Ça rajouterait peut-être beaucoup de sucre. J'ai vu des premiers abricots qui débarquent avec l'abricot. Ça peut marcher, ça.
L'abricot romarin, c'est délicieux, ça. Ça va très bien ensemble.
Eh bien, merci beaucoup, Kathleen Clarity, d'être venue à la table des bons vivants. Je rappelle votre livre La nouvelle cuisine californienne, paru chez Hachette, une cuisine saine, naturelle et complète. Merci Kathleen Clarity.
Merci à vous.
Europe 1, 11h30, Laurent Mariotte.
Bientôt midi moins le quart, c'est l'heure de retrouver l'ami du déjeuner, le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Et ça y est, Il est venu le temps des cerises, le maire le moqueur, le gai rossignol et le Jean-Luc Petit-Renaud flatteur. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Eh bien, salut mes bons gourmands. Alors, moi je vous remercie d'ailleurs pour cette place dans l'émission. Être finalement le considéré comme la cerise sur le gâteau, ça me fait plaisir. Parce que c'est le fruit qu'on attend le plus. C'est marrant parce que la fraise pointe son nez avant, mais la fraise, elle a le côté rampant, donc on l'oublie vite. Tandis que le cerisier, il est planté au milieu du jardin et on le suit depuis des mois. On a vu arriver ses fleurs, on a vu bourgeonner les feuilles, on a vu arriver ces petites billes vertes qui vont être nos futures cerises. Et puis on se dit, allez, peut-être qu'on sera prêt pour la cueillette samedi prochain, ça ira bien. Et puis basta, vous êtes en train de sortir l'escabeau et là arrive le maire le moqueur. Le beau prince au bec jaune qui arrive, saute dans le cerisier et bouffe les cerises. Bien avant vous. Alors je lui en veux toujours. On essaie de lui faire peur en tapant dans les mains, mais ça marche pas à tous les coups. La cerise, c'est le produit du saltimbanque, c'est le produit du clown, parce qu'on a envie de cueillir et de se mettre ces jolies cerises sur les oreilles. D'ailleurs, qu'est-ce que les pastourelles sont belles sous les yeux des pastoureaux lorsqu'elles arrivent déguisées de cerises.
Mais quel poète ce Jean-Luc Petit-Renaud, un beau clafoutis de cerises. On en parlera la semaine prochaine des cerises, on ira les récolter dans le Vaucluse. Ça
mais
fait envie,
que
Olivier
Pouls. Le clafoutis, Pouls. C'est à la cerise, c'est avec des cerises dont on a gardé les noyaux, bien sûr, parce que ça donne du goût à la cuisson. Et puis après, quand on est dans le jardin, ça permet de faire des concours de crachat de noyaux de cerises. Et j'étais assez fort.
A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'être à la table des bons vivants. Ça y est, elle est arrivée, les amis. Alors, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Après avoir balancé entre le jazz et le rap, elle trouve sa voix dans un cabaret. Une voix pleine, hein, entière, qui swing. En 2010, on la découvre avec Je veux. Après 4 albums et des concerts dans le monde entier, elle est aujourd'hui comblée. Elle a voulu, elle a eu. Militante et engagée, elle a fondé le Crusol Festival. Avec Zazimut, elle soutient plusieurs organisations non gouvernementales. Elle revient d'une tournée exceptionnelle, les amis, dans le monde. De l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Zaz est à la table des bons vivants ce samedi. Bonjour Zaz, on est ravis de vous recevoir.
Bonjour à tous.
Ça fait un moment qu'on avait pris date.
Ouais.
Parce qu'on voulait à tout prix vous avoir autour de cette table.
C'est difficile de trouver.
C'est très difficile de trouver une date et vous avez une bonne excuse. Vous revenez d'une tournée aux quatre coins du monde, l'Allemagne, la République tchèque, les États-Unis, le Japon. Vous avez fait l'équivalent de 3 tours du monde en 4 ans.
Il paraît, ouais. Après, c'est tellement intense. Après, pendant 7 ans, je me suis pas. C'est les gens, ils m'ont pas vu, ils m'ont dit ah, pourquoi on ne te voit plus ? Tu fais plus rien. J'ai dit, ben non, je me suis pas arrêtée pendant 7 ans. J'ai fait énormément de concerts à l'étranger.
Et vous revenez avec un album qui est sorti il y a quelques mois déjà, ouais. Effet Miroir. Est-ce que pendant ce tour du monde, vous avez eu des révélations culinaires, des goûts, des repas incroyables qui vous ont marqué ?
Oh, le Japon, c'est quelque chose. Hein.
Ah oui.
Ouais. Après, j'aime pas tout. Il y a des textures et tout, c'est vraiment chelou. Mais en même temps, j'aime bien essayer. Il y a des trucs, j'ai vite recraché. Hein. C'était pas possible. Enfin, il y a des trucs, des textures, je
sur
peux
quoi,
pas.
Sur le poisson cru, sur des choses
ouais,
comme ça ?
Ouais, sur des trucs, mais je sais même pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi, en fait. Et, puis,
oui, puis on comprend pas bien la langue.
Puis il parle pas trop anglais non plus. Non. Donc tu manges, voilà, tu goûtes, tu craches.
C'est un voyage en
par
tous
contre,
les sens du terme.
Des choses très bonnes, très très bonnes, très fines. Et...
Quel est votre goût de la semaine, Zaz ?
La coriandre, mais c'est le goût de l'année. Hein. Enfin, c'est le goût de ma vie en fait. Je suis vraiment, je pourrais bouffer de la coriandre dans tout.
Bienvenue au club. On en parlait tout à l'heure. On a fait un reportage sur les herbes aromatiques.
Il
faut mettre de la coriandre partout quand on aime
partout.
Ça. T'as une question qu'on vous a peut-être jamais posée.
Pas mal, c'est bon.
Est-ce que vous aimez les chips, Zaz ?
Est-ce que j'aime les chips, Zaz ? C'est dur à dire d'affilée.
C'est dur. Je me suis lancé là.
Ouais. C'est cochon, mais c'est bon.
Figurez-vous que les Français mangent de plus en plus de chips. C'est Anne, leur femme, qui est à côté de vous, a eu envie de faire un petit état des lieux pour voir s'il existait d'autres chips que les classiques pommes de terre ou chips de légumes.
Ouais.
Hein, Anne-Laure ?
Et oui, Laurent, parce que depuis un an, les marques snacking se mettent à faire de plus en plus de chips de légumineuses. Et légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots et tutti quanti. C'est une tendance de fond, en fait, parce que même dans les rayons des supermarchés, vous voyez aussi des pâtes sèches et même des steaks végétaux à base de légumineuses.
Alors, est-ce que c'est intéressant ? Parce que c'est vrai que dans notre inconscient collectif, la vraie chips, c'est la pomme de terre.
Oui. Et oui, mais bon, il faut vivre avec son temps, les enfants,
oui.
Et le secteur agricole des légumineuses
oui,
a le vent en poupe. Aujourd'hui, la France consomme environ 100 000 tonnes de légumineuses chaque année quand même. On dit bravo la France. Alors, et 40% de ce stock-là est produit sur notre beau territoire.
Et on pourrait en faire encore plus, et on le dit souvent ici, hein, consommons des légumineuses, c'est bon pour la santé, c'est une énergie
protéines
durable.
Végétales.
Et en plus, c'est de l'engrais naturel pour nos sols. Donc,
oui,
quand on fait de la rotation de culture, il n'y a pas besoin de mettre de cochonneries.
Ça emprisonne l'azote dans les sols, tout à fait.
Alors, les industriels, ils sont malins. En fait, ils ont saisi l'opportunité du business et ils se sont dit, on va faire des chips de légumineuses.
Et oui, ils sont fourbes, mais malins. Donc, ces industriels se disent, on va dégainer un réflexe santé sur nos paquets de chips de légumineuses. Mais évidemment, nous, on fouille un petit peu. On se dit que c'est pas si simple que ça. Alors, prenons par exemple les chips lentilles Vico.
Ouais, ça sent le gras.
Vous êtes ma cobaye, oui, c'est ça. Donc c'est la gamme Nature et Bon, c'est fait à partir de 38% de farine de lentilles. Et le reste, c'est de la farine de riz et de maïs.
C'est bon.
C'est aromatisé.
Ouais, ça se sent, c'est ça le problème.
Il n'y a pas d'huile, c'est bien.
Voilà.
Et c'est ça. Alors,
mais il n'y a pas de sucre. Donc ça va.
C'est bien, elle a le palais affûté. Ben oui, il y a seulement 17% de matière grasse.
C'est vrai, c'est pas sucré. Ouais.
Alors que les classiques chips de pommes de terre Vico de la même marque, c'est 36 grammes.
Ah mais c'est ludique, les chips ça croustille.
Ouais, mais vous aimez le goût, Zaz?
Ah non, c'est pas bon. Hein. Ça sent vraiment
ça sent le goût
produit,
artificiel. Vous qui aimez les trucs naturels quand même.
Non, ça fait pas naturel.
Ah, on est d'accord.
Il y a des arômes en fait, ça ressemble à... Oui, c'est ça, il y a des agents de texture.
Ça va, c'est assez clean, c'est des arômes naturels. Mais bon, choc à chips,
trop.
Allez, on enchaîne, Zaz.
C'est moi,
on a plus trop de temps, il faut manger des chips.
Non mais elle joue bien la cobaye, Zaz. Hein. Merci, bravo, elle goûte à tout.
Frénétiquement, ah, ouais. C'est super.
2 kilos par émission.
En même temps, quand t'as très très faim et que t'as rien à bouffer, je veux dire, tu trouves tout très très bon. Et là, vu que j'ai très faim,
ça c'est pois chiches.
Là.
Non, ça c'est,
ça,
pas
c'est
bon,
pois chiche. Ah, bah... vous n'êtes pas fan de pois chiche peut-être.
Ah, moi j'aime bien ça pour le coup.
J'aime bien, mais.
Allez, on fait goûter à Laurent.
C'est alors, comme c'est la soca qu'on trouve du côté
beaucoup,
de Nice.
En fait, à
c'est
côté.
Les soca chips. C'est farine de pois chiche, huile d'olive, sel, poivre, basta. Par contre, c'est 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes.
T'as vu, c'est
plus
bon.
C'est gras, plus c'est bon.
C'est faux parce qu'on dirait qu'il y a moins de matière grasse. Vu que c'est cuit au four.
Tout à fait. Et la leçon de cet humble petit banc d'essai, c'est que moins vous avez d'ingrédients et plus vous payez cher.
Ouais.
Et que les poignées de chips, ça sera toujours aussi gras.
Eh bien, on retrouvera les références sur Europe1.fr. En tout cas, merci Anne-Laure Femme. Bientôt midi, on se retrouve dans un instant avec Zaz autour d'un Bouddha Bowl, un joli bol végétal. Vous connaissez le Bouddha Bowl?
Oui, j'en mangeais au Québec.
Eh bien, vous allez en manger ici à la table des bons vivants. Ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30. Le meilleur de la table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Merci d'être là les amis et soyez les bienvenus hein, si vous nous rejoignez. Depuis 11h, nous retrouvons les meilleurs moments de nos belles tablées et ils sont nombreux hein, entre nos artisans du goût, nos paysans, nos chefs et nos invités. On se régale. Alors nous avons fait le tour de la tomate cultivée en pleine terre, nous avons goûté la cuisine californienne qui nous veut du bien. Zaz est avec nous depuis quelques minutes. On l'accueillait parce qu'elle revenait d'une tournée dans le monde entier et pour lui donner des forces, eh bien, on lui avait servi un Bouddha Bowl, vous savez, cette salade fraîche et nourrissante. C'est aussi la saison des haricots verts, vous en avez peut-être déjà fait des bocaux. Alors tendez l'oreille parce que Zaz a été cuisinière dans une première vie. Et elle était responsable des fagots de haricots. Vous savez, cette garniture un petit peu vintage. Restez jusqu'au bout, à table avec Zaz. On a une petite casserole, tiens, à vous faire écouter, cher Zaz.
Ah.
C'est pas les enfants de la télé, mais quand on a préparé
l'Aveyron.
L'émission... Voilà, l'Aveyron. Ah. Vous avez fait un clip...
C'est pas une casserole, c'est, tu sais, c'était il y a un paquet de temps.
Un clip magnifique sur l'Aveyron.
Voilà, et en fait, Bat, qui est le chanteur et qui a toute sa famille en Aveyron, donc on était à l'apéro, on buvait du Ricard, je sais plus ce qu'on buvait, et on s'est dit, mais on va faire un clip avec les... Donc après, tous les produits, le machin, mais c'était un clip, c'était de l'humour. Bon, après, on l'a quand même fait.
Bah, il est rigolo.
C'est dégueulasse. Mais oui, enfin, après, j'imagine qu'un vegan, quelqu'un qui voit le clip, il va se dire
voilà, mais c'est
quoi cette horreur. Et c'est vrai que c'est horrible, mais c'était un délire à ce moment-là.
Oui,
je le referais pas aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment dégueulasse.
On écoute le refrain quand même, parce que vous
savez. Mais on s'est bien marré. On avait pris tous les gens du village, on a fait le clip et tout le monde a joué le jeu.
Oui,
on a braqué la boucherie.
Il y a des saucisses, il y a des vraies têtes de cochon.
On était en mode rap, tu vois, rap, mais sur l'Aveyron, quoi. Moi j'ai kiffé, franchement c'était drôle. Après c'était tête
mais
de cochon, c'est dégueulasse.
J'adore.
Bah, moi aussi j'adore.
Ah non, on adore. Hein.
On a même fait un autre truc sur avec le rugby amateur parce qu'il est kiné à la base et il était s'occuper du rugby amateur et on a été jouer à Marcoussis devant avec Liav Romont avec.
Sébastien Chabal.
Il y avait le 15 de France et puis il y avait l'équipe féminine aussi. On a fait un concert pour eux là-bas.
Ah oui, on est loin du côté pop rock effectivement des miroirs, hein, ça je vous rassure. Alors on parlait du Bouddha Bowl. Vous connaissez le Bouddha Bowl, Zaz?
Oui, au Québec il y a un endroit qui s'appelle Au Vivre et on mange que des enfin il y a plein de trucs, un mélange de plein de choses dans des bols et c'est super bon. Et il y a une sauce à la cacahuète où tu mets du parfum.
Oui, alors il faut une bonne sauce effectivement,
ouais,
parce que c'est un plat à base de légumes, de céréales et de légumineuses et puis une sauce qui enrobe tout ça. Alors on vous en a préparé un avec des falafels, comme les boulettes de pois chiches, mais qui va être fait là avec des haricots de Soissons. C'est Yann Esclavon qui a fait ça aux étangs de l'abbaye à Longueuil-Sainte-Marie, c'est juste à côté de Compiègne dans l'Oise. Il y a des haricots de Soissons, de la roquette sauvage et des herbes du jardin.
Vous avez l'embarras du choix en ce moment, vous avez des magnifiques radis là, vous avez des salades, vous avez de l'oca du Pérou qui se trouve là-bas. Aujourd'hui on vient chercher la roquette, voilà, et quelques radis. Donc là vous avez la ciboulette, les grosses fleurs violettes ce sont les fleurs de la ciboulette. Donc on va en prendre quelques-unes, on va aller chercher un peu de fraises sauvages.
Oh, de jolies petites fraises.
Quand elles sont très très mûres, c'est beaucoup plus parfumé.
On est de retour en cuisine là.
Donc on va passer à la mandoline, les oignons nouveaux et la carotte. Donc la ciboule, on va les mincer en biseau, assez fin. On va continuer à équeuter un peu de roquette. Donc là, on va mélanger dans un grand saladier tous nos ingrédients. C'est roquette, les dernières carottes du jardin pour en profiter, les oignons nouveaux, les fleurs qu'on a trouvées. Donc on va faire notre falafel. On a les haricots cuits. Alors les haricots de Soissons, ici, c'est un petit peu une institution, on va dire.
Et oui, c'est picard, les haricots de Soissons.
On va les mixer avec un petit oignon blanc. Là, je vais utiliser l'huile d'ail des ours. On va rajouter une cuillère à soupe de farine de pois chiche pour lier. Et on finira par une petite pointe de cumin. Faut que ce soit super homogène.
Ça a l'air pas mal là.
Oui, ça a l'air pas mal. On va façonner des boules et on va les lancer dans le four à 170 pendant 20 minutes.
Ça y est, ils sont cuits.
Une belle dorure. Donc on parsème la salade avec un joli quinoa noir. Il n'y a plus qu'à déguster.
C'est gourmand, le falafel. On a le croquant de la carotte.
Le peps de la roquette.
Ah oui,
c'est une vraie roquette très parfumée.
Elle pique, hein.
Au moins, il y a de la. C'est le côté plaisant du jardin. C'est on peut faire du sport après. Ouais, je pense. Exact, des légumes.
Eh bien, merci Yann Esclavon. C'était une dégustation en parallèle. Alors voilà,
on sent bien la coriandre.
On sent bien la coriandre. Ouais. Et c'est sain, c'est de la légumineuse. C'est quelque chose qu'on peut tous faire à la maison, Olivier.
Il y a besoin d'un peu de sauce quand même. Hein.
Oui, là, on n'a pas la sauce. On a juste fait la petite
Olivier,
boulette.
Regarde,
voilà,
mais
on
n'a pas. Oui, la sauce. Hein.
Non, mais avec la sauce, ça marche très très bien.
C'est pas mauvais, franchement.
Allez, ne bougez pas. On revient tout de suite avec Zaz pour répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 3921. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants. Nous sommes en bonne compagnie ce samedi avec Zaz. Elle est venue avec son dernier album Effet Miroir. Elle est en tournée dans toute la France et à l'étranger aussi. Non mais on le dit peut-être pas assez, mais vous faites une carrière incroyable dans le monde entier, Zaz.
Ouais, ouais, ouais.
Vous vous attendiez à ça? Il y avait Aznavour et il y a Zaz aujourd'hui.
Je m'attends à tout.
Je suis très sérieux. Hein.
D'accord, putain la vache, quelle autorité.
Okay. Non mais je veux dire, vous êtes connu et reconnu et apprécié dans le monde entier.
Bah ouais, on fait plein de concerts partout dans le monde, puis à Buenos Aires, on a fait le Luna Park, il y a plus de 8000 personnes. Là on a fait Madrid il y a quelques mois, il y avait 10 000. Enfin c'est Québec, il y avait plus de 10 000 aussi.
Vous avez un projet qui mélange cuisine et musique aussi, on en parlait.
C'est un projet qui... Alors, s'il y a des gens qui veulent nous aider à trouver un financement, parce qu'on a proposé, mais personne... Pourtant, c'est un projet qui est génial. On a toujours... Bah, nous, on adore bouffer, quoi. Et on adore la musique. On s'est dit, pourquoi on ne fait pas les deux? Et on a Yves Candebord,
après, il y a
Manu Renault. Ils viennent tous, en fait, du même chef, je crois, c'est ça.
Oui, ils viennent de chez Christian Constant, absolument.
Voilà, Flora Mikula. Donc, en fait, chaque chef a deux chansons.
Vous créez des chansons pour coller aux spécialités des chefs cuisiniers.
Voilà, d'accord. Avec des artistes différents. Et puis, ça serait génial qu'il y ait, je ne sais pas, une espèce d'émission... il y a tout à faire en fait.
Ah,
mais les gens sont, je sais pas, il n'y a pas eu de réactivité.
Et... Ça va venir.
Puis du coup, moi, je travaille beaucoup aussi, donc il faut
mobiliser tout ça.
Voilà, ça
faut trouver une personne qui centralise les bonnes énergies.
Ouais.
Vous êtes chanteuse, bonne vivante, ouais, et aussi cuisinière, Zaz.
Bah, j'aime bien cuisiner. Bah, bonne, j'en sais rien. En tout cas, c'est créatif. Bah, après, je suis une cuisinière qui... Enfin, tu vois, je mets un peu de ça.
Ben oui, j'essaye,
je teste.
De l'instant.
Ouais.
La cuisine n'est pas figée, on peut s'amuser justement à mélanger les styles. Et vous avez même été cuisinière dans un restaurant routier.
Routier,
c'est vrai,
quand j'avais 17 ans. Ouais. Je me faisais engueuler parce que j'arrêtais pas de touiller la casserole. Je sais pas comment il faisait pour voir parce qu'il était à l'autre bout. Il faisait, touiller la casserole. Mais non, je touille pas. Et en fait, je touillais, ça m'énervait. Et je faisais les petits fagots. On allait aussi dans les...
Oh, les fagots de haricots verts avec le petit lardon.
On en faisait beaucoup parce qu'après, on partait des week-ends, dans les châteaux. Et donc, on faisait plein de trucs en masse pour les gens.
Alors, restez avec nous parce que vous allez pouvoir répondre justement peut-être aux questions des auditeurs. On a une première question au 3921.
Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. C'est Jean-Pierre de Marseille. Voilà, j'ai prévu de faire une piémontaise cet été. Et j'aurais voulu avoir une recette originale. Je vous souhaite une bonne émission et merci pour tout ce que vous faites.
Oh, merci Jean-Pierre. Une salade piémontaise, vous connaissez?
Une salade piémontaise avec de la mayonnaise.
Oui, exactement. Des cornichons, des œufs,
des pommes de
du jambon coupé en deux.
Des pommes de terre.
terre.
Des pommes de terre, soufflaine leur femme. Alors c'est vrai que c'est
pas
un
trop
petit...
mettre de maillot, puis après
bah,
c'est écœurant.
Bah moi c'est pareil. Moi ouais. La maillot, je peux plus. J'y arrive ouais. plus. La
en
maillot.
Fait, oh non bah non, mais faut qu'elle soit. C'est... Faut qu'il y ait.
Ah, trop de maillot,
faut qu'elle
maillot.
Soit bien dosée, mais une, ouais, maillot, voilà, ouais. Une bonne maillot, c'est quand même.
Oui, mais si dans une salade comme ça, ça peut mettre un peu trop de gras. Donc un pesto d'herbe fraîche, par exemple, à la place, on faisait un dossier spécial plantes aromatiques tout à l'heure.
Mais tout le monde n'aime pas le pesto.
Alors une sauce toute rose avec un yaourt mélangé avec du tarama.
Ah oui, on
ça peut marcher, ça aussi un petit côté terre-mer du coup, ou la raïta.
Sauce au fromage blanc.
Sauce, voilà exactement. Ah, voilà. Ou un yaourt, une raïta avec du concombre, de la menthe, ça peut aussi enrober la piémontaise. Nous avons baladé aussi notre micro sur le marché d'étapes à côté du Touquet cette semaine et Katia a une question.
Mais voilà, là j'ai pris pour la première fois des côtes de blettes. Je ne sais pas encore comment les cuisiner. Bah, j'aimerais bien quelques conseils pour une bonne petite recette.
Alors, c'est bon les blettes.
C'est bon les blettes.
Ouais.
Gratin, vous
un
dites...
gratin. Vous mélangez les, vous coupez les côtes de blettes en petits morceaux. Il faut les éplucher. Il faut enlever la petite
les fils.
Sinon, ça reste dans les dents. C'est insupportable.
On la coupe en petits morceaux. On la blanchit et puis on la mélange à un fromage frais.
C'est
brunch,
ça, on la blanchit.
Par exemple, on fait des petits ramequins. On met dans le four. Et c'est magnifique.
Ce qu'il faut savoir, c'est que tout se mange dans la blette. La côte et la feuille. Les feuilles, on peut les faire retomber comme des épinards, absolument. Par exemple.
Au dernier moment, surtout ne pas les mettre à cuire en même temps que les côtes, parce que vous avez un truc infâme.
Séparément, surtout pas. Les côtes ça d'un côté, bouillie. Effectivement, on peut les faire revenir avec des épices, les côtes, et mettre les herbes par-dessus.
Ou une omelette. Avec les...
C'est très amer.
Une omelette aussi.
Faut, du coup, alors, il faut.
Oui, c'est un peu amer.
De l'ail et du citron. Ça annule tout à fait l'amertume. C'est super.
Zaz, est-ce que vous connaissez le gâteau de blette du côté Nice?
Bah non.
Ça, c'est un gâteau qui est fait avec des blettes, justement, les côtes et les feuilles, des pignons de pin et du parmesan. Ah. C'est un côté sucré-salé, c'est une vraie spécialité niçoise, ça, le gâteau de blettes.
Ah, mais j'y vais bientôt.
Et ben voilà, donc même vous nous ramenerez une part de gâteau de blettes de Nice. Voilà, Katia, au Touquet, vous avez de quoi faire avec les blettes. Ne bougez pas, nous sommes avec Zaz jusqu'à midi et demi et on va vous découvrir de l'autre côté de la fourchette parce que, comme vous l'entendez, Zaz est une bonne vivante, une bonne mangeuse et elle a des choses à nous raconter encore. A tout de suite, il y aura les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls aussi.
Europe 1. Jusqu'à midi et demi, vous êtes avec Laurent Mariotte à la table des bons vivants. Rappelez-vous, cette année, ils avaient reçu la chanteuse Zaz et on revit ça sur Europe 1, alors profitez.
Vous êtes entière, vous êtes sincère, généreuse, engagée, on le sait. Vous avez été pas mal moquée, caricaturée un petit peu au
mais ça,
début.
C'est le propre. C'est
ça vous a blessé, ça?
En fait, ce qui est blessant, c'est la bêtise, enfin la méchanceté, enfin tu vois, de défoncer quelqu'un sur... Comment on peut défoncer quelqu'un sur un physique déjà? Genre, je me lave
pas. Oui, sur votre look, sur tout ça, on m'a dit voilà.
Attends, même quand je transpire, je sens bon quoi.
Vous sentez très bon.
Non, mais sérieux.
Vous sentez très bon.
Mais c'est vrai, en plus, je te jure, je peux faire un spectacle pendant 2 heures, 2 heures et demie, je ne sens rien quoi.
Est-ce que vous aimez le vin, Zaz?
J'adore le vin.
Ah, bah ça tombe bien, nous aussi, on en parle tous les samedis ici à la table des bons vivants avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Vous avez même un petit peu vécu dans le Bordelais à un moment.
J'ai vécu 14 ans à Bordeaux, ouais.
Donc voilà. Eh bien, on va faire une chronique spécial vin de Bordeaux avec vous, Olivier Pouls, parce qu'on en parlait en préparant cette émission, Olivier, et c'est vrai que vous avez envie de remettre au goût du jour les vins de Bordeaux, parce que qu'est-ce qui se passe? On les méprise, on les maltraite, il y a du Bordeaux bashing, comme on dit?
Oui, il y a du Bordeaux bashing, il y a l'idée que les vins de Bordeaux sont hors de prix, inaccessibles, un peu prétentieux, parfois un petit peu ringard. C'est un mouvement français et même international, des gens qui disent, des sommeliers qui disent tout sauf Bordeaux, mais franchement, il faut se rendre compte que Bordeaux, c'est un vignoble exceptionnel, loin de cette image-là.
Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de vrai quand même dans tout ça. C'est vrai qu'on a l'image des vins de Bordeaux qui sont chers, qu'il faut faire garder longtemps pour pouvoir en profiter. Il y a un petit peu cette légende urbaine
alors,
autour.
Évidemment, il y a eu un dérapage de prix dans les années 2000 où les vins de Bordeaux, en tout cas les grandes marques des vins de Bordeaux, une cinquantaine ou une soixantaine de marques, pas plus sur 2000, ont un peu fondu les plombs, on va le dire franchement, et les prix ont explosé. On s'est retrouvé avec des bouteilles à 300, 400, 500, 600 euros tout à coup pour des premiers grands crus classés. Franchement, ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mais c'est pas la grande majorité.
C'est une minorité, ça, en fait.
Ben oui, je vous disais, c'est environ 60, allez, 70 marques sur 2000. Mais autour de ça, vous trouvez un océan de vins à Bordeaux qui sont à des prix entre 5, 10, 15, 20 euros maximum, même pour des appellations plutôt prestigieuses. Là, je vous ai apporté un simple Bordeaux supérieur. Vous voyez, ça, c'est un vin qui vaut entre 6 et 7 euros. Franchement, c'est délicieux. Il y a rien à redire. C'est ce qu'on boit là.
C'est très bien.
Voilà.
C'est quoi ?
Ça s'appelle Fleur au Gossens, ça vaut moins de 10 euros, c'est absolument délicieux. Et il y a plein de vins comme ça, dans des appellations, même comme le Médoc, ce qu'on appelle les appellations satellites, les Montagnes Saint-Émilion.
Ah oui.
On peut aller au...
Après, ils ne sont pas très dans le bio non plus.
Alors, bon. C'est ce qu'on a beaucoup reproché. Il y a un vrai mouvement aussi à Bordeaux qui est en train de se lancer autour de ça.
Bah, c'est important.
Et de plus en plus,
c'est vrai
de
que ça traite pas mal les vignes. Oui, effectivement, oui, il faut arriver à prendre
alors,
ce virage.
Moins,
de...
moins qu'ailleurs, mais ça, on peut l'expliquer très facilement.
C'est bio.
Le climat bordelais se prête moins au bio que d'autres climat. Et donc, ils y vont, mais probablement plus lentement.
Quels sont les millésimes qu'il faut privilégier, alors ?
Mais écoutez, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, on a des très bons millésimes sur le marché. 2016 est fantastique. 2015 aussi, qu'on peut encore trouver. Et puis, il y a 2017 qui arrive, qui lui aussi va donner des vins au profil juteux, gourmand, très savoureux.
Donc, ça vaut le coup, le Bordeaux. Vous dites stop au Bordeaux bashing.
Mais oui, redécouvrez ces vins. Il y a des rapports qualité-prix exceptionnels à Bordeaux. Il n'y a pas que des crus inaccessibles.
Vous nous mettrez quelques références sur europe1.fr,
et,
Olivier.
Et dans votre cave.
Et ben, avec plaisir. Et dans celle de Zaz.
Aussi, aussi. Oui, vas-y.
Zaz, c'est l'heure du questionnaire des bons vivants, justement.
Ah. C'est bon ?
Alors, on va mieux vous connaître maintenant de l'autre côté de la fourchette. Zaz, quel est le goût de votre enfance ?
Bah, y a un truc qui me revient, c'est les bouchées à la reine.
Ah,
parce
oui.
qu'il y avait un truc ludique. En plus, t'avais le petit chapeau dessus. Enfin,
la
pas,
petite
avait...
pâte feuilletée.
Ouais.
Votre plus beau repas, Zaz ?
Un souvenir fort, en fait, parce qu'on était en Argentine. Et on nous a dit, bon, bah, dans le cadre de Zazimut, toujours, parce qu'à chaque fois qu'on fait un concert, on trouve une association locale, on la fait monter sur scène. Là, on nous disait, bon, bah, tous les ans, sur la Plaza de Mayo, donc quand même une place emblématique, y a un chef qui vient faire à manger pour les gens de la rue. Et donc, tu as une grosse tablée, et les gens viennent manger tous ensemble, et tu vois, il y a un truc communautaire. Enfin, c'est chouette, quoi. Et on a joué, et on s'est mis à parler avec des gens. Donc, les gens me parlaient en espagnol, moi, je leur parlais en français, mais on se parlait vraiment. Et puis t'avais le chef qui faisait là, enfin voilà, c'était
la communion du repas.
Bah ouais, moi c'était un super moment et c'était fort et tu voyais tous ces gens ensemble qui étaient heureux et on leur faisait de la musique et enfin je sais pas, il y avait comme c'était hors temps.
Votre pire repas.
C'était il y a pas longtemps et je comprends pas, c'était un indien. J'adore les indiens, c'est trop bon. Là.
Les... Ah oui, on adore
sauf
les
que là,
indiennes.
C'était vraiment dégueulasse. Il a même réussi à rater le riz, je ne sais pas comment.
Mais il était où celui-là ?
Non, je ne dirais
on
pas,
dira
ça ne se fait pas.
D'accord.
Mais...
Quel est l'ingrédient que vous n'aimez pas retrouver en cuisine ?
La cannelle. Oh. Ah non, la cannelle, c'est pas possible.
Ça sort du cœur.
Ah non, la cannelle, je ne peux pas.
Comme Alain Ducasse, comme beaucoup de chefs cuisiniers qui n'aiment pas la cannelle.
Ouais.
Le plat que vous ne pouvez pas manger ?
Tous les abats, là, la cervelle, les machins. Et avant, je détestais l'endive cuite. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a préparé une endive, elle était sucrée, elle était... Et je me suis dit, ah bah, en fait, ça devait...
Oui, avec une petite vinaigrette à l'orange ou un petit peu de miel par-dessus
oui,
l'endive.
Oui, bon, les riz de veau, même quand c'est bien préparé, je peux pas manger ça. Donc, je pense que tous ces trucs-là, des trucs gluants, là...
C'est pas gluant, c'est un peu gélatineux, peut-être, parfois, c'est ça ?
Ouais, puis le goût, non.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Zaz ?
Mon amoureux.
Ah, elle va le manger. Quel est votre mot préféré en cuisine ?
Miam miam.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Zaz ?
Bah mes amis, ma famille, les chefs. Bah, quand là, à un moment, il y avait tous les chefs ensemble, ils nous ont fait à bouffer. Mais alors c'était Disneyland.
Yves enfin, Candebord, Emmanuel Renaud, Thierry Breton, il y avait du beau monde.
Il y a Flora Mikula, petit Pierre, mais là ils nous ont fait des trucs au, enfin c'était trop bon partout. Ils nous avaient ramené du vin naturel, ils nous ont fait des dégustes. Enfin c'était la folie.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Zaz ?
Curry coco.
Ah, c'est bien ça.
Je cuisine beaucoup, beaucoup, même à l'huile de coco, beaucoup. Et le truc que je fais aussi pour relever, c'est que je mets souvent un demi-citron et une orange.
Dans le curry coco ?
Ben ouais.
Avec de la volaille, du poulet, curry de poulet ou
Poulet, ouais. Des champignons aussi. Enfin, ça dépend, des fois je mélange avec les légumes, un tout petit peu d'ail.
Oui, vous aimez le mélange, comme dans votre vie, comme dans les albums.
J'aime bien mettre un petit peu de machin, pas trop, puis je teste. Mais ce que je te disais, c'est que ça a changé. Avant, je mettais trop de tout, et c'était imbouffable, c'était dégueulasse. Et maintenant, je me fais confiance, et je m'écoute, et j'en mets juste un petit peu. Et
mais c'est ça.
Ouais.
La cuisine, c'est ça, c'est de l'instinct aussi. Et puis, c'est de ne pas avoir peur de recommencer après s'être planté. C'est pas grave de se planter en cuisine. Et le mot de la fin, F-I-M.
Bah, j'ai faim, F-I-N.
Bien, joli. Merci beaucoup, Zaz. Merci. Eh bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, même le saucisson qui en a deux. Merci à Zaz pour sa belle générosité. Depuis 11h, vous l'avez entendu, notre plan de table a fait honneur aux produits de saison et puis aux salades d'été. Daniel Villon, notre maraîcher dans le Var, nous l'a dit,
Arrêtons d'acheter des tomates dures comme du bois, une vraie tomate. Elle doit être molle et charnue. Alors profitons de l'été hein, pour découvrir des variétés anciennes sur les marchés paysans par exemple. Et puis côté salade, eh bien la tomate elle aime la mozza, ça c'est sûr. Mais pensez à l'estragon. Il prolonge aussi sa fraîcheur avec une petite note anisée. Voilà, vous retrouverez toutes les recettes sur europe1.fr. C'est la même adresse pour vous abonner au podcast de l'émission. Merci pour votre fidélité. On sera là samedi prochain avec d'autres meilleurs moments. D'ici là, bon week-end sur Europe 1 et bon été.
Bon été Laurent et à la semaine prochaine du coup. Alors pour ce qui est de la suite sur Europe 1, on ne change pas les habitudes. Il y aura bien sûr votre journal de la mi-journée dans quelques minutes. Mais il sera présenté par Axel May aujourd'hui. Et à 15h, Isabelle Morizet vous fera revivre sa rencontre avec Caroline Vigneault dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Très bon week-end avec Europe 1, il est midi 28.